élémentaire, mon cher Nico. Une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, bonjour pour cette nouvelle émission et la grande spéciale. Évidemment, il y en a plusieurs dans l'année, mais celle-ci, c'est toujours celle du mois de mars. Un petit peu, on fait pour la qualité de l'air. On est au printemps, il y a les pollens, et puis en fait, l'émission met en évidence à nouveau qu'il faut s'en prémunir. Et surtout, il y a toujours beaucoup d'actualités en cette début d'année. On sort un petit peu pas de léthargie, puisqu'on s'arrête jamais sur la qualité de l'air. Mais effectivement, on a envie de sortir, et il est toujours bon de sortir, s'aérer, prendre soin de soi, faire du sport dans des lieux qui sont, prévenant pour nous, hein, puisqu'avec Tony, la dernière fois, on avait quand même discuté aussi des enceintes sportives aux abords du périphérique. Et là, il y avait une attention particulière à porter à cela. Donc aujourd'hui, cette émission spéciale avec quatre invités, des invités qu'on connaît et qui viennent ici à l'émission régulièrement, et un petit nouveau aujourd'hui en la personne de Michel Lozana. Et je suis ravi, monsieur le député, de vous accueillir, parce que je me sens un peu moins seul du Lot-et-Garonne, puisque vous êtes le député du Lot-et-Garonne.
Je suis le député de la première circonscription où il y a Stafford, justement. C'est bien la première circonscription de Lot-et-Garonne.
Ça me rappelle quelque chose à Stafford, je ne sais pas pourquoi. Mais on y est bien, en tous les cas. En tous les cas,
Michel, l'air y est meilleur.
Il est pas mal, j'avoue.
Il n'est pas trop mal. J'ai une patiente, vous savez que je suis médecin, je peux vous le dire.
Ah mais allez-y, présentez-vous.
Alors, je suis médecin, mais à la retraite, mais en fait, je travaille encore un petit peu. Et je travaille beaucoup sur la santé à Paris, donc les cancers, beaucoup autres, ce qui m'a amené donc à travailler sur les puffs. Mais j'ai une patiente qui venait de Paris et qui n'avait plus de traitement pour ses problèmes respiratoires dans le Lot-et-Garonne. Chaque fois qu'elle revient à Paris, elle me dit qu'elle est gênée. Voilà, donc c'était une petite anecdote.
Et ben je la partage parce que moi, quand je viens et que j'ai des problèmes respiratoires, quand je suis sur Paris, exactement, j'ai le même souci. On va croire que c'est peut-être les particules fines, mais on va en parler tout à l'heure. Donc bienvenue, Michel. C'est une première pour vous. Et puis, j'ai le plaisir toujours d'accueillir Claire-Sophie Quedvez.
Bonjour.
Comment ça va, Claire-Sophie ?
Très bien, merci.
Une nouvelle fois autour de l'émission, on va parler de quoi avec toi aujourd'hui ? Dis-nous, d'où viens-tu ?
Alors, moi, je dirige un bureau d'études qui s'appelle Medieco, qui fait partie du groupe Ispira et qui travaille sur les thématiques de santé environnementale et notamment de qualité de l'air intérieur. Donc, historiquement, on travaille... au quotidien sur les composés organiques volatiles. Mais c'est vrai que sur différents projets qu'on a menés, on s'est intéressé plus particulièrement aux perturbateurs endocriniens. Et c'est tout l'objet dont je vais vous parler aujourd'hui.
Voilà, et des perturbateurs endocriniens au travers des PFAS.
PFAS,
hein, les perfluorés, polio,
bisphénol, enfin on va pas se faire la liste, mais il y en a
4000 à peu près. Hein,
il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas tous identifiés. Certains sont suspectés, l'identification pure. On a différentes listes qui existent pour les classifier au niveau européen. Toutes ces listes ne présentent pas les mêmes substances classées perturbateurs endocriniens. Donc c'est un vaste sujet qu'il faut réussir à défricher.
Et c'est ce qu'on appelle aussi les polluants éternels.
Tout à fait. Alors tous les perturbateurs endocriniens ne sont pas tous polluants éternels, mais les PFAS en font partie.
Voilà, donc il y a un gros sujet là-dessus. La main maintenant à Tony Renucci qui vient encore une fois. Mon cher Tony, bienvenue.
Bonjour, merci pour l'invitation. Très bien.
On va parler de quoi, Tony ? Tu es le directeur de l'association Respire.
Exactement, association nationale pour l'amélioration de la qualité de l'air.
Et on va parler de quoi aujourd'hui ?
Alors, on va notamment parler de pollution aux abords des établissements scolaires et dans la région sud.
Ah, on quitte pas le sud ?
En tout cas, nous, c'est la première fois qu'on y va, mais on sera dedans, oui.
D'accord, on va voir ça parce que justement il y a une carte notamment qui est faite par Respire, hein, qui est très importante. Il y a toujours ces avancées qu'on connaît avec Respire au travers du contrôle technique des deux roues, au travers des rues aux écoles. Ça c'est quand même aussi un grosse avancée, mine de rien, qui est pour la santé des enfants. Et puis on va avoir aussi tout un tas d'autres sujets qui méritent de ne pas lâcher, hein, les ZFE notamment. Hein. On sent que c'est attaqué un petit peu de partout. Et puis on dit un pilier, un fidèle de l'émission, Fabien.
Un habitué.
Un habitué, Fabien Schinazzi, cher docteur, bienvenue.
Oui, aussi médecin biologiste, ancien directeur du laboratoire d'hygiène de la ville de Paris, où j'ai passé une trentaine d'années pour m'occuper justement de santé et d'environnement. Et puis depuis 12 ans maintenant, au Conseil de la Santé publique, où je préside actuellement la commission spécialisée risques liés à l'environnement. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler encore d'autre chose.
Ah, de quoi va-t-on parler? Le titre est énorme. Hein, donc,
Je trouvais qu'il était intéressant de parler de celles et ceux qui souffrent. Parce que souvent, on parle de la pollution et de la mortalité, on parle des 40 000 morts. Et quand on a parlé des zones à faible émission, on a mis en avant ces 40 000 morts liées à la pollution aux particules fines. Mais là, la dernière étude de Santé publique France ne parle pas de mortalité, mais parle de ce qu'on appelle la morbidité, c'est-à-dire les maladies qui apparaissent, les nouveaux cas, à la fois chez les enfants et chez les adultes. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas uniquement des maladies respiratoires qui sont présentes, mais également d'autres maladies, parce que les particules fines s'insinuent dans notre organisme et vont s'attaquer à différents organes, comme le cœur, les vaisseaux, le cerveau, avec les maladies neurodégénératives.
Et selon la taille des particules, elles vont beaucoup plus loin, voilà, en fonction aussi dans notre organisme.
Voilà, et je trouve intéressant de dire quelques mots sur cette étude, et surtout ce qui était intéressant dans cette étude de Santé publique France, c'est de dire aussi que si on respectait les valeurs guides de l'OMS sanitaire, des particules fines et du dioxyde d'azote, eh bien on pourrait éviter de nombreuses maladies dont nous parlons, mais également qu'il y a un aspect économique, et ils ont chiffré aussi l'aspect économique. Donc je trouvais intéressant de parler de cet aspect-là qu'on ne met pas souvent en avant.
On va revenir dessus très rapidement, parce que c'est vrai que pour faire prendre conscience de cette qualité de l'air, à un moment donné, on nous dit toujours, mais la qualité de l'air, elle est bonne, on a le réflexe de respirer, tout va bien, il n'y a pas de souci, sauf quand Michel évoque sa patiente notamment. Mais surtout, c'est pour faire prendre conscience et peut-être pour faire agir un peu plus, mais combien ça coûte finalement tout ça? Alors on va revenir avec vous, Michel Lozana. Les puffs, ça a été quelque chose qui était pris en compte pour les adultes, pour les enfants, pas pour les adultes. Hein, vous avez donc au mois de février, il y a eu le vote à l'Assemblée sur ce sujet. Alors deux questions premières, le puff, c'est quoi? Le resituer un petit peu dans le contexte, je vais vous laisser en parler. Et puis en quoi c'était nécessaire de s'attaquer à ce problème?
Alors les puffs soulèvent deux problèmes. Ce sont des dispositifs comme du vapotage, si vous voulez, mais des dispositifs à usage unique. Il soulève deux problèmes de santé publique d'abord, évidemment, parce que cela contient de la nicotine et on sait que c'est la nicotine qui crée l'accoutumance et l'addiction. Et ensuite, le problème environnemental, parce que ce sont des dispositifs jetables qui contiennent des petites piles au lithium, du plastique, et que ce n'est pas recyclable. Un chiffre, en Angleterre, ça avait été évalué à peu près 1,3 million de puffs jetés dans la nature, comme ça, par semaine. Donc ça prenait une ampleur très importante. Alors ensuite, pourquoi je me suis intéressé aux puffs aussi? Parce qu'il y a derrière un marketing très agressif en direction des jeunes. C'est là où c'est le plus consommé, ce sont les jeunes en collège, il faut bien le savoir. Les autres, ils passent souvent ou à du vapotage.
Ça rappelle ce qui était fait pour la cigarette il y a quelques années. Si on capte plus on capte jeunes, plus on garde longtemps.
Et d'ailleurs, un tiers des consommateurs de puffs sont évalués après passer donc à la consommation de tabac. On sait tous les effets délétères du tabac. Donc un marketing agressif en direction des jeunes. Agressif parce que, entre guillemets, parce qu'il y a derrière un packaging d'abord très attractif, il y a des goûts aussi attractifs pour les jeunes, et puis un dispositif sur les réseaux sociaux qui les mettent en avant et qui les promeuvent. Et d'où, voilà, vraiment ciblé sur des jeunes qui sont au collège et qui consomment ça et qui deviennent donc addicts, en tout cas, à la nicotine.
Qui en prennent une habitude, et cette habitude, voilà, est une force insidieuse qui fait qu'on a du mal à s'en détacher. Moi, j'aurais une petite remarque. Je suis un petit peu assidu de certaines séries, quelquefois en passant rapidement devant, et ça me choque. Ça fait quelques longs mois, au moins 2 ans et demi, on revoit beaucoup dans les films et les séries des personnes qui fument ou qui vapotent.
Oui. Ouais, c'est... Alors moi j'ai pas fait.
Est-ce qu'il y a pas quelque chose
assez, voilà, les séries.
Voilà, voilà. Mais c'est vrai que moi ça. Mais
je m'amuse. Mais
je tombe les yeux dessus pas. Et je me dis mais c'est dingue. Normalement tout ça devrait être complètement arrêté. J'ai souvenir même d'une séquence où la personne remonte sur 10 mètres à marcher, elle tire 3 fois sur son appareil et on voit que ça.
Vous avez raison, on l'a bien vu aussi pour la loi Évin, pour ce qui concerne l'alcool, c'est-à-dire que petit à petit, ça se grignote, si j'ose dire, et qu'on revoit des choses qu'on ne voyait pas avant. Ceci dit, on n'en est pas trop là, parce qu'en France encore, la consommation de tabac chez les jeunes a un peu baissé quand même, donc il y a une légère évolution.
On s'est passé de 25% à 20%,
ouais.
C'est ce que j'ai vu des chiffres récents.
Voilà. Et ce que je voulais dire, parce que ça nous intéresse ici, c'est que d'abord c'était une loi transpartisane que j'ai posée avec une députée écologiste, parce qu'on travaillait tous les deux et qu'on a voulu la passer rapidement et de manière à ce qu'elle soit votée par le plus de monde possible. On a eu l'unanimité à la fois au Sénat et à l'Assemblée.
Donc vous êtes en train de dire qu'il y a des votes à l'unanimité à l'Assemblée nationale ?
Oui,
c'est pour ça que... Et surtout sur des sujets comme ça, ça nous fait plaisir, hein, autour du plateau.
Je crois qu'il était difficile de s'y opposer, surtout qu'on a vraiment ciblé, du fait de problèmes européens, entre guillemets, qui avaient déjà refusé ça à la Belgique, on a été instruits et on l'a vraiment ciblé sur les puffs. En fait, ça a été très... très ciblé, très contraint, parce que ils avaient refusé à la Belgique la même interdiction que nous on voulait, donc on a été instruit, on l'a fait vraiment minime, parce qu'il y a au niveau européen une directive sur le tabac et la nicotine, voilà, qui pouvait nous en empêcher. Ce que je voulais dire, ce qui nous occupe aussi aujourd'hui, c'est que cette loi contre les puffs, d'interdiction des puffs, a été reprise dans le plan anti-tabac. Le nouveau plan anti-tabac qui, malheureusement, on pourra en reparler,
on en parlera en deuxième
est un peu à l'arrêt. Voilà.
Donc là, c'est une belle victoire, franchement.
Oui, c'est une belle victoire. Maintenant, l'industrie du tabac est très inventive. Vous savez que maintenant, il y a des sachets, il y a des billes, des nicotines.
Ils ont augmenté, de ce que j'ai vu au niveau des lobbies, ils ont augmenté de 23% leur budget.
Ah, bah ça, c'est ce qui est énorme. Je pense que ça se fait beaucoup au niveau européen. Nous, on a eu quand même quelques mails, nous aussi, pour essayer de nous dissuader, mais on n'a pas raté. Mais je pense qu'au niveau européen, ils doivent faire du lobbying, c'est très important. Et le ministre de la Santé, d'ailleurs, a transmis au niveau européen aussi une directive pour l'interdiction de ces sachets de nicotine. Mais on va voir quelle va être la réponse.
Eh ben, on va suivre ça ici, en tout cas sur l'émission. C'est le genre de d'événement que l'on suit avec attention, parce que on va pas laisser passer. Et comme je vous disais, Michel, hein, nous dans l'émission, on s'inscrit pas dans de l'actualité, mais dans le regard de fond pour faire agir et améliorer tout cela, évidemment. On reviendra tout à l'heure ensemble, et puis vous pouvez intervenir avec aussi les personnes autour de la table. Mais là, on va faire une bascule qui va aller vers Fabien, parce que de passer de ces puffs, de ces cigares, de ces addictions, on a également, quelque part, ça a une incidence sur la santé, qu'on soit jeune ou qu'on soit plus ancien. Mais justement, cette estimation de la morbidité attribuable à l'exposition à long terme à la pollution de l'air ambiant et ses impacts économiques en France hexagonale. Santé publique France nous a fait un grand titre, oui. Mais par contre, il y a beaucoup de choses derrière, tu le disais tout à l'heure, Fabien.
Oui, je voulais faire un lien par rapport à ce qui vient d'être dit, parce que moi j'ai travaillé à l'époque quand le décret est sorti pour interdire le tabagisme dans les lieux publics, c'était en 2016, ça fait presque 20 ans, où on a interdit de fumer finalement à l'intérieur, et on a créé des espaces extérieurs pour fumer. Et quand j'ai débuté mes études de médecine, et quand on parlait de ces maladies respiratoires, que ce soit la bronchopneumopathie chronique ou d'autres fibroses respiratoires, et ces maladies chroniques, on parlait essentiellement du tabac. C'était le tabagisme qui était responsable de ces maladies. Et le tabac recouvrait tout. C'était la fumée, finalement, avec l'addiction à la nicotine, la fumée de tabac, qui entraînait toutes ces pathologies respiratoires et même d'autres types de pathologies. Et là, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est que c'est la pollution en elle-même atmosphérique qui rend malade les personnes. Donc, il y a le tabac, certes, mais la pollution joue maintenant un rôle, à la fois dans ces maladies respiratoires chroniques, dans le cancer du poumon, à la fois les maladies respiratoires chez l'enfant, et notamment l'asthme, le développement de l'asthme chez l'enfant, mais chez l'adulte aussi, des maladies respiratoires chroniques, des maladies cardiovasculaires, notamment des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde, mais aussi, ce qu'étudie le Santé publique France, les maladies métaboliques comme le diabète. Donc aujourd'hui, On sait que la pollution, d'ailleurs la pollution atmosphérique est considérée comme cancérigène depuis déjà pas mal d'années par l'OMS, eh bien aujourd'hui toutes ces pollutions, polluants qu'on trouve dans l'air, entraînent ce type de pathologie. Et donc je vais donner deux ou trois chiffres qui m'ont paru intéressants. On a montré que pendant une période de 2016 à 2019, donc avant la période du Covid, on avait 40 000 nouveaux cas par année de maladies respiratoires chez l'enfant et le double de maladies respiratoires cardiovasculaires et métaboliques chez l'adulte. Donc, tout ceci coûte très très cher puisque Santé publique France a chiffré à près d'une presque 13 milliards d'euros pour les PM2.5, pour les particules fines PM2.5, le coût de ces pathologies respiratoires.
Les particules fines 2,5, hein, c'est celles qui
les 2,5
rentrent jusqu'à
qui
nos alvéoles pulmonaires.
Très profondément dans les voies respiratoires, qui vont aller ensuite passer l'alvéole pulmonaire, se distribuer par la circulation sanguine, et ces particules fines vont aller se fixer n'importe où, dans n'importe quel organe, et entraîner ces pathologies dont nous parlons au niveau du cœur, au niveau des artères, au niveau du cerveau, comme des maladies neurodégénératives, des maladies métaboliques. Bref, on sait aujourd'hui, alors que je parlais juste avant du tabac qui nous recouvrait tout, aujourd'hui on sait que la pollution atmosphérique entraîne toutes ces pathologies.
Et qu'elle est plus forte en zone urbaine.
Bien sûr, et en zone dense, évidemment, on respecte loin de là les valeurs guides de l'OMS aujourd'hui. Elles sont très basses, celles qui ont été proposées il y a 2-3 ans. Et donc, ce que dit aussi cette étude de Santé publique France, c'est que si on respectait les valeurs guides sanitaires de l'OMS, c'est-à-dire les 5 microgrammes par mètre cube de PM2.5 et les 10 microgrammes par mètre cube de dioxyde d'azote, eh bien, on pourrait éviter un très grand nombre de maladies et d'aspects économiques. Par exemple, Santé publique France dit qu'on pourrait éviter 30 000 nouveaux cas d'asthme chez l'enfant si on respectait ces valeurs. Donc, on voit les enjeux fondamentaux. Ce n'est plus la mortalité dont nous parlions régulièrement, les 40 000 morts. Là, aujourd'hui, c'est des enfants qui souffrent. Et un enfant est beaucoup plus vulnérable à cette pollution, pour différentes raisons physiologiques notamment, et de maturation de ses poumons et de son système immunitaire, mais également donc un aspect à la fois de souffrance pour ces personnes et de coûts économiques importants. Donc, je trouvais que cette étude était intéressante à signaler. On a peu d'études de ce type-là en France. Alors, ça touche évidemment la France hexagonale, c'est vraiment axé là-dessus. Et cette étude donc nous montre l'importance, l'enjeu de santé publique que représente la pollution atmosphérique, à l'inverse du tabac qu'on évoquait, évidemment, qui joue toujours son rôle.
Mais ils sont cumulatifs.
Exactement.
Il ne faut pas oublier que l'un sans l'autre...
Voilà. Et quand tu parles de cumulatif, je pourrais aussi dire que le tabac et le radon, par exemple, aussi c'est cumulatif, etc. Donc il y a tous ces aspects-là. Et puis on peut dire aussi les personnes allergiques au pollen, par exemple, eh bien leur pathologie allergique est aggravée par la pollution atmosphérique. Toutes les infections virales respiratoires sont aggravées par la pollution atmosphérique. Arrêtons là, la cour est pleine. Il y a beaucoup de choses en matière de pollution. Et donc ça veut dire que devant nous, nous avons encore, même si les niveaux de pollution ont baissé depuis ces dernières années, les niveaux, pas l'ozone, mais les niveaux de pollution atmosphérique ont baissé avec le temps, parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, eh bien les efforts, ils doivent encore redoubler pour encore faire baisser ces concentrations de polluants atmosphériques qui sont beaucoup trop élevées.
Et
je terminerai en disant que tous ces polluants atmosphériques dont je viens de parler pénètrent à l'intérieur. Ça fait partie aussi de la composante de la qualité de l'air intérieur et où il y a ensuite les autres types de polluants intérieurs spécifiques qui vont également s'accumuler. Et donc, ce qui veut dire que ce qu'on va respirer à l'intérieur, c'est à la fois ce qui nous vient de l'extérieur, ce qu'on crée à l'intérieur. Et donc, ça veut dire que c'est un cocktail de substances et de particules, sont chimiques et de particules qui sont particulièrement défavorisantes pour nos individus.
Et notamment pour les individus, hein, il y a notamment des analyses exploratoires qui ont été faites aussi en fonction du niveau de défavorisation sociale, oui, qui sont assez importants. Et il y a aussi tout un tas de petits textes en cours à l'heure actuelle où on peut considérer, mine de rien, c'est assez étonnant, que la qualité de l'air sera toujours bonne dehors. Donc on a toujours cette tendance à se dire, bah finalement, on va traiter ce qui est dedans et dehors, ce sera toujours une constante, alors que ce n'est pas vrai. Non, donc ça, il faut y faire vraiment attention. Et je veux rebondir, avant de passer la parole à Tony, je veux rebondir également, le professeur Carré, qui était sur ce plateau il y a l'année dernière, disait que justement, il y avait des jeunes de 15 ans qui ont des pathologies de personnes de 55 à 60 ans, qui s'est accéléré ces 15 dernières années. Alors qu'on a des niveaux de qualité de l'air qui s'améliorent sur certains points, comme tu disais, Fabien.
Un petit peu, oui.
Voilà, donc les enfants sont un enjeu majeur, c'est pour ça que je vais donner la parole à Tony. Et notamment, Tony, toi et avec l'association Respire, on retrouve le sujet que vous creusez fortement maintenant, c'est-à-dire les écoles et la qualité de l'air aux abords des écoles, beaucoup plus vaste que les rues aux écoles que vous aviez démontré il y a quelques années et qui maintenant est ancré et qui progresse. Mais là, c'est sur la zone sud que vous avez fait ces études. Quelles sont-elles? Quelle était la cible? Quel était le travail souhaité? Et qu'est-ce que ça a démontré?
Oui, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a publié une carte de pollution aux abords des écoles dans la région sud, donc auprès de 2763 établissements. Et on a regardé les données de pollution d'Atmos Sud sur les 10 dernières années. Donc on a à la fois des mesures et des modélisations. Et on les a croisées avec les données de localisation des établissements scolaires. Et donc ce qu'on voit, alors c'est que certes, il y a une amélioration de la qualité de l'air sur les 10 dernières années, mais dans la tendance en fait même nationale hein, qu'on voit. Mais en même temps, on garde encore des niveaux de pollution qui sont encore trop élevés, qui sont encore alarmants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont quand même très au-dessus des recommandations de l'OMS qui font quand même foi en termes d'urgence sanitaire. Donc par exemple, on a quand même 98% des établissements scolaires de la région sud qui sont au-dessus des recommandations de l'OMS sur les particules fines. Donc c'est quand même considérable. Et quand on regarde notamment certaines particularités dans la région, donc dans certaines villes, je pense notamment à la ville de Marseille qui est quand même la ville la plus polluée de la région. On voit qu'à Marseille, on dépasse les recommandations de l'OMS sur les trois polluants principaux qu'on a regardés, donc les PM10, les particules fines, PM2.5, le dioxyde d'azote, et des niveaux de dépassement qui sont élevés. On est jusqu'à 2 fois en moyenne sur les particules fines et sur le dioxyde d'azote. Et c'est bien en moyenne, ce qui veut dire qu'il y en a encore d'autres qui sont très élevés. Il y a même un lycée qui s'appelle le lycée Jean Perrin, où là, on dépasse jusqu'à 3,5 fois sur le dioxyde d'azote, 2 fois sur les particules fines. Bon, en même temps, il est dans une situation géographique aussi à côté de gros axes routiers. Donc c'était important de pouvoir attirer l'attention sur cette région. Pourquoi ? Parce qu'on l'a déjà fait en Île-de-France, on l'a fait en Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'était aussi naturel que maintenant on aille voir dans le sud. Aussi parce que je pense qu'on est dans une région où là il y a des sources de pollution qui sont aussi multiples.
Alors certes, c'est ce qui est détaillé dans l'étude, hein, il y a 3 sources.
Exactement,
principales.
La pollution résidentielle avec le chauffage au bois, mais aussi la pollution du trafic maritime. Et c'est vrai que là c'est quand même aussi un terrain d'étude qui est intéressant et qui a aussi des particularités. Et puis je pense une dépendance à la voiture qui est aussi plus forte. Donc c'est vrai que là en termes de préconisation, c'est moins évident aussi parce que si on veut réduire la place de la voiture, il faut quand même qu'on ait beaucoup plus d'alternatives, notamment dans cette région. Et parmi les recommandations qu'on fait, alors il y en a 10, c'est quand même un plan d'action qu'on propose sur ces différentes sources de pollution. Mais sur le trafic routier, ce qu'on dit, c'est que déjà, il faut qu'il y ait un consensus politique, parce qu'en plus, Marseille a une compétence, la métropole en a une autre, elle se partage la voirie, bon, avec en plus des bisbilles politiques. Donc c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. C'est moins simple qu'Anne Hidalgo qui pousse à Paris comme elle le fait. Et ce qu'on propose, c'est qu'ils généralisent notamment les rues aux écoles, ou les rues aux enfants, parce qu'ils les appellent différemment là-bas. Non pas que ce soit la panacée, mais c'est déjà une mesure intéressante pour réduire l'exposition, notamment des enfants, quand ils sont à l'école et surtout dans les espaces extérieurs, donc au niveau de la desserte, quand ils vont à l'école, au niveau de la récréation. Et pour rappel, quand même, une étude qu'on a faite avec Respire, alors sur 10 écoles parisiennes, c'est que après piétonnisation, parce qu'une rue aux écoles, c'est une piétonnisation de rue d'école, on a quand même une réduction des concentrations de dioxyde d'azote jusqu'à moins 30% en moyenne. Donc les rues aux écoles, ça marche.
Moins 30% en moyenne, et puis c'est pas anodin, parce que là, tu parles depuis tout à l'heure des recommandations et des niveaux qui sont recherchés, les niveaux de l'OMS, Mais il faut savoir que la France, c'est pas les niveaux de l'OMS.
Oui, mais alors...
Donc on est aussi déjà sur un gap un petit peu plus élevé, donc on se rend compte à un moment donné que il faut atteindre ces niveaux d'OMS, c'est ce qui est souhaité, ce qui est souhaitable mais pour les enfants.
Et c'est pour ça que nous, entre guillemets, on parle que de ça. Après, sur la carte, on a une cotation des établissements entre les niveaux OMS et les niveaux de réglementation européenne. Donc on a du bon, du passable, du mauvais, mais bon, ceux qui sont rouges ne respectent rien. Il y a quand même encore beaucoup de rouges, et notamment à Marseille et à Nice et dans d'autres villes aussi. Mais je pense que c'est important de garder cet objectif OMS, même si on sait que c'est pas le plus simple à atteindre aujourd'hui, parce que c'est ce qui doit aussi guider notre action, et rappeler quand même que c'est aussi un objectif d'urgence sanitaire. Et pour aller plus loin d'ailleurs sur les chiffres que tu as donné, Fabrice, dans la région sud, si on respectait les recommandations de l'OMS, qu'ils ont aussi fait des particularités par région dans leur étude, là on éviterait jusqu'à 2700 cas d'asthme par rapport aux particules fines et 1200 cas d'asthme infantile, je précise, par rapport au dioxyde d'azote. Donc c'est quand même considérable.
Oui, et puis ça mérite de s'y atteler, d'y aller, parce que je pense que les parents qui nous écoutent sont une oreille plus qu'attentive, puisque ce que disait aussi Fabien tout à l'heure, ce qu'on va retrouver, les cas de bronchiolite notamment, on sait que toutes ces agressions extérieures qui viennent chauffage au bois et qui viennent notamment les bateaux à Marseille, c'est pas anodin. Hein. On dit qu'un bateau, c'est à lui tout seul la consommation d'une agglomération qui peut atteindre 20 000 personnes. Hein. Donc ça commence à avoir du poids sur le sujet. On reviendra tout à l'heure, Tony, aussi sur tous les... Parce que tu as évoqué un point, il y en a 10 hein, pour mieux faire. Notre deuxième partie de l'émission sera dédiée à comment on va améliorer tout ça, comment on va continuer à bien faire. Et on va aussi, alors là vous avez vu, on a fait une gradation, on est arrivé de la personne, on est passé par la Santé publique France et les particules, et puis le dioxyde d'azote. Mais on retrouve maintenant, plus précisément, un autre type de polluant, puisqu'ils sont très nombreux, avec nos perturbateurs endocriniens, nos PFAS, nos phtalates, nos... Que sais-je, Claire-Sophie ?
Nos composés. non, mais c'est intéressant et c'est très complémentaire à ce qui a été dit, parce qu'on a parlé de pollution atmosphérique et du coup, dioxyde d'azote, benzène et particules fines. C'est une pollution qu'on prend en compte à l'intérieur, quand on veut améliorer la qualité de l'air intérieur. Mais ça, c'est la pollution qui vient de dehors. Et en fait, c'est vrai que le sujet des perturbateurs endocriniens, c'est un sujet, on en a partout, mais dans les environnements intérieurs qui sont plus confinés, on va plus s'intéresser aux composés organiques volatiles. Et en fait, les perturbateurs endocriniens, ce sont des composés organiques volatiles, même plutôt semi-volatiles. Et plus qu'une famille, c'est plutôt des composés qui vont avoir un effet en fait, sur la sécrétion d'hormones dans le métabolisme. Et donc, ces perturbateurs endocriniens, ils appartiennent à différentes familles de composés organiques volatiles. Et en fonction des familles, on va les retrouver dans des sources différentes, un peu partout dans nos environnements intérieurs.
Partout.
Si on détaillait exactement où est-ce qu'ils sont, je pense que c'est un sujet qui peut vite devenir anxiogène. Parce qu'en plus, ils sont partout. On a quelques solutions, mais finalement, on n'avance pas très vite sur les solutions. J'ai l'impression qu'on revient... Moi, j'ai l'impression de me replonger un peu 10-15 ans en arrière avant l'étiquetage obligatoire des produits de construction, où on était un peu face au secret industriel sur quelques composés, finalement, de l'étiquetage. Là, on a 800 substances, à peu près, qui sont classées perturbateurs endocriniens et bien plus suspectées. Et on se reconfronte au secret industriel. En plus, les perturbateurs endocriniens souvent apportent aux produits des propriétés assez magiques. C'est antifongique, c'est antibactérien, la poêle n'adhère pas.
C'est marketingment parlant et ça donne envie d'avoir son bidule.
En soi, c'est pratique, on est d'accord. Chez soi. Très bien. Mais c'est vrai que comme beaucoup de choses...
Mais notre santé est-elle l'esprit ?
Et voilà, la question à se poser, elle est là. Donc il y a des solutions quand même concrètes et on pourra en reparler sur comment est-ce qu'on limite son exposition aux perturbateurs endocriniens. Mais avant d'avoir les solutions, il faut d'abord savoir où les trouver. Et c'est vrai que si on regarde les différentes familles chez soi, alors il y a tout ce qui est produits bâtiments, on va retrouver plutôt des perturbateurs endocriniens qu'on va appeler des phtalates qui vont venir assouplir les revêtements de sol. Tout ce qui est revêtement anti-adhésif, on va retrouver effectivement les perfluorés, donc ce qu'on appelle les PFAS.
Qu'on va trouver dans les poils ?
Dans les revêtements anti-adhésifs,
voilà.
Effectivement.
Et c'est assez étonnant dans les revêtements anti-adhésifs là, qu'on les ait un petit peu bannis un peu partout sauf les poils.
Il y a le côté pratique.
Voilà, il y a le côté pratique et il y a le côté...
Il y a un petit mois, il y a eu un...
un débat
discrètement
sur
un décret qui a été dont on a parlé, qui faisait marche arrière en fait sur la présence de ces composés dans les, en fait ces composés composent les revêtements plastiques. Et effectivement, du coup, il y a eu plusieurs débats sur le sujet pour essayer de les enlever dans les cantines scolaires.
C'est ça. Et dans nos poêles, ce serait bien aussi.
Dans tous les emballages.
Pour l'instant, c'est pas encore gagné. On arrive déjà à la moitié de l'émission. Vous avez vu, Michel, vous qui êtes là pour une première fois, beaucoup de choses.
Oui.
Vous allez voir, il y en aura encore beaucoup. Par contre, vous avez la parole, puisqu'il y a la petite musique. Il y a un morceau qui est en intermède de l'émission. Vous nous avez choisi quoi, Michel ?
Alors, j'ai choisi.
Pourquoi ?
Oui. Je me suis en effet posé la question. On peut parler de l'air, tout ça, dans les chansons, mais moi j'ai choisi Luciano Pavarotti, tout simplement parce que il faut du souffle, il faut du coffre.
Il en avait,
et c'est pour bien faire reprendre conscience aux gens de quoi on se priverait si on était vraiment tous atteints, parce que moi je sais ce que sont les maladies respiratoires, par exemple, et c'est vraiment très très handicapant. Heureusement que Pavarotti ne fumait pas, et à l'époque peut-être il vivait dans la campagne italienne, donc peut-être il n'était pas trop soumis à des polluants, mais bon, voilà. Et donc ça serait dommage de se priver de la beauté du chant de Pavarotti.
Alors on va écouter Pavarotti dans...
Alors, Nessun Dorma, Turandot, qui est un de ses tubes, si j'ose dire.
Allez, on va écouter donc Pavarotti dans Turandot, et on va se retrouver avec Michel Lozzana, le député, Fabien Schinazzi, docteur Schinazzi, Tony Renucci, le directeur de l'association Respire, et Claire-Sophie Cudvez, qui est chez Inspira et MediEco. Et à dans quelques instants. Chers auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, bienvenue et retour à la deuxième partie de cette émission spéciale du mois de mars, avec autour de la table le député Michel Lozzana, le docteur Fabien Schinazzi, Tony Renucci de Respire et Claire-Sophie Cudvez de MediEco. On était parti dans cet intermède avec notre ami Luciano Pavarotti, qu'on a bien apprécié, notamment hein, par rapport au coffre et au souffle dont on a besoin pour aller chercher ces belles notes. Mais on a également, nous, tout un sujet, et on a vu dans la première partie de l'émission quelles étaient les problématiques qui sont associées, les puffs avec le combat que Michel Lozzana a mené. On a vu aussi l'étude de Santé publique France sur l'estimation de la morbidité qui est à l'exposition à long terme à la pollution. On a vu l'étude de l'association Respire, notamment sur les expositions des écoles sur la région sud, et avec maintenant cette carte qui permet de le suivre, et pour quelles raisons. Et puis avec, on attaquait la partie des perturbateurs endocriniens, notamment les PFAS, phtalates et autres, avec Claire-Sophie. Et on va reprendre, et là on va regarder pour chacune des problématiques qu'on a soulevées tout à l'heure, c'est nos solutions à son où, parce qu'on va pas se mettre au bord du chemin, on va exhiber nos plaies et dire regardez c'est pas bien. Non, les sujets sont là, et tout ce qui est pris ici à bras le corps, c'est pour dire maintenant il faut se réveiller, il faut ouvrir nos esprits, ouvrir un petit peu nos poumons pour bien faire et s'assurer qu'on va bien respirer. Alors on va revenir avec Tony notamment. Tu as évoqué tout à l'heure les points de ces pollutions auprès des écoles, et il y avait 10 points justement, ou 10 plutôt propositions pour améliorer et diminuer ce qu'on a retrouvé sur les 3 je dirais origines de polluants, hein, que tu as dit c'était le secteur routier, c'est le secteur maritime, hein, au bord de Marseille, le port ou fosse même qu'on va retrouver. Mmh. Et puis, il y a les aussi énergies, le chauffage au bois qui en a une grosse part, puisque c'est de loin le premier là-dessus en France. Je voudrais juste faire une petite incursion sur l'étude notamment. Il est dit que les problématiques, c'est le chauffage au bois et plutôt le routier sur Nice. J'ai envie de parler de l'aéroport aussi un peu.
Oui, alors on est plus rentré dans le détail, c'est vrai, sur Marseille. Sur l'aéroport, de ce que j'ai compris, le sujet local, c'est l'agrandissement de l'aéroport. J'ai vu qu'il y avait des mouvements, notamment, qui s'y opposaient ou qui combattaient le projet. Sur les aéroports, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que l'impact qu'on a, c'est l'exposition quand on vit, notamment, à proximité. C'est pas tellement, finalement, parce qu'au-dessus d'une altitude de 1000 mètres, après, c'est assez négligeable, mais c'est vraiment sur et les activités à l'intérieur et surtout le voisinage de l'aéroport, où là, ça pose un sujet de pollution. Mais après, pour revenir sur les solutions, alors je vais pas reciter forcément les 10, mais pour en dire une, en tout cas, emblématique de chaque source. Donc, on parle, bien sûr, des rues aux enfants, parce que ça, c'est des aménagements de voirie, finalement, qui sont, entre guillemets, assez simples à faire, même si ça dépend, en plus, pour beaucoup, d'un processus de décision politique un peu plus complexe que ce qu'on voit dans d'autres régions là-bas, mais sur lesquelles quand même la ville de Marseille et la métropole du coup avancent. Il y en a 8 qu'on a pu voir, d'autres qui vont être annoncées autour de la vingtaine. Donc on sent qu'il y a une mobilisation, une prise de conscience aussi des élus à ce sujet-là.
C'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle, mais c'est pas simple d'y arriver. Sur le chauffage au bois, on a des niveaux d'exposition, alors qui sont élevés à Marseille, on a d'autres villes dans la région qui sont vraiment très très élevées. Hein. Je pense notamment à Avignon et à Gap. Gap, c'est assez étonnant, parce que sur le dioxyde d'azote, ils sont plutôt sur une progression, enfin c'est-à-dire ça diminue vraiment. Mais par contre, ils ont des niveaux de particules fines très élevés. Alors aussi parce qu'ils sont en cuvette, mais aussi parce qu'il y a énormément de chauffage au bois.
Et on pourrait parler de Grenoble, qui est un peu plus haut.
Oui, mais c'était la précédente carte.
C'est ça.
Mais ce qu'on préconise, c'est que dans les zones urbaines denses, il y ait une interdiction au moins des foyers ouverts, des cheminées à foyer ouvert. Et d'ailleurs, ça a été fait dans le plan de protection de l'atmosphère en Auvergne-Rhône-Alpes, sur tous les types de chauffage. En Ile-de-France, c'est que sur le chauffage principal, hein, sur l'agrément, ça peut continuer. Et je pense qu'il faut qu'on arrive vers ce type de mesure aussi, d'ailleurs, même partout, j'ai envie de dire. Parce qu'on est sur des zones urbaines denses, donc déjà, il y a moins de dépendance quand même au chauffage au bois. La zone rurale, bon, c'est un autre sujet. Et parce que ça reste les lieux où on voit le plus de concentration de particules fines, parce qu'il y a aussi plus de densité de population et donc du coup plus d'exposition pour la population. Et puis sur le trafic maritime, on parlait de l'électrification des quais, on l'a remise, mais surtout je pense que l'idée, parce que c'est déjà dans la loi aujourd'hui, hein, que ça soit pour 2030, enfin dans la réglementation, mais l'idée c'est qu'on y arrive le plus vite possible. Et je pense même qu'il faudrait voir sur comment est-ce qu'on pourrait interdire en fait l'accès de certains gros bateaux, notamment de croisières de tourisme, ou alors qu'il y ait des quotas d'escale pour vraiment aussi réduire leurs accostages dans les ports de la région sud.
Électrification justement des bateaux qui sont à quai, c'est de manière à chanter complètement leur moteur diesel pour assurer le fonctionnement du bateau.
Okay. Oui, c'est exactement ça.
C'est juste pour le répéter à nos auditeurs que c'est quand même important, mais ça nécessite aussi des consommations énergétiques assez colossales.
Oui, tout à fait.
Un bateau, c'est pas anodin.
Voilà. Oui.
Même si pour transporter des marchandises, un très gros conteneur, l'impact par kilo transporté est bien moindre, mais ça reste quand même, quand on le laisse en statique, évidemment que ça nous amène assez loin.
Aujourd'hui, il parle du cargo voile. Dans les médias aujourd'hui, sur des essais, le plus gros cargo voile qui se déplace au rythme du vent.
C'était aujourd'hui ?
Ouais, aujourd'hui ils en ont.
Pas seulement à la voile, ça serait complémentaire, non ?
Oui, je pense, mais
Il y a des voiles ou des turbines ? C'est peut-être des turbines.
Il y a d'autres techniques là, ils essaient de trouver, je crois. Je ne sais pas d'autres carburants que des carburants aussi polluants. Ils parlaient de composés qui seraient moins. En fait, ils étudient et ce serait sûrement un mixte, en fait, comme dans beaucoup d'endroits.
Oui, je pense.
Une solution, ça serait mixte.
Une solution miracle, je crois qu'elle n'existe pas. Hein, il faut être assez, assez humble là-dessus. Mais effectivement, apprendre à avoir un peu de sobriété à la base. Hein, puisqu'on le dit, la meilleure des énergies, c'est celle qu'on ne va pas consommer. Mais le meilleur des polluants, c'est celui qu'on ne va pas émettre. Donc on va déjà aussi peut-être commencer un petit peu par ça. Et au niveau justement de tout ce qu'on retrouve à l'intérieur, ma chère Claire-Sophie, comment on peut agir chez soi ? Quels sont les premiers principes de prise de conscience pour toi et comment, au jour le jour, on peut faire petits gestes qui vont bien nous aider ?
À l'échelle plus globale, je reprendrai ce que tu viens de dire sur le fait que le meilleur polluant, c'est celui qu'on n'aimait pas. Ça veut dire que d'abord, avant de réfléchir aux produits, il faudrait d'abord avoir une réflexion avec les industriels pour limiter justement la présence de ces polluants à l'intérieur des produits de consommation courante, matériaux. On a certaines substances qui sont identifiées quand elles sont remplacées, s'assurer qu'elles ne soient pas remplacées par des substances qui ont potentiellement aussi des dangers. Et souvent, il faut d'autres études et ça reprend quelques années et donc qu'ils soient interdits, mais quelques années plus tard.
Ensuite, prendre le temps de les étudier. Parce que ça aussi, quelquefois, on veut aller très 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 vite. Et après, on se dit, mince, on s'est aperçu qu'on a fait une bêtise alors qu'on aurait pris un laps de temps entre les deux. Ça nous aurait peut-être permis de tempérer ça.
Tout à fait. Et puis après, s'intéresser à chaque produit, savoir potentiellement quelle substance perturbateur endocrinien il contient. Donc là, on a des listes assez importantes et essayer de les limiter au maximum. Donc si on vient sur l'alimentaire, dans les revêtements plastiques, les emballages alimentaires en plastique, on a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Donc essayer de les remplacer par des contenants en verre, par de la fonte. En fait, revenir à des pratiques un peu plus anciennes.
Mais on passe pour un ringard, hein. Moi, mes enfants me disent que t'es un ringard avec tes trucs, papa.
Alors, mais
après, ils s'aperçoivent que ça marche bien, que c'est bien.
Il y a peut-être un ou deux ans, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a une prise de conscience. Notamment, on n'a pas parlé des effets des perturbateurs endocriniens, parce qu'on a beaucoup parlé de pathologies respiratoires. Les perturbateurs endocriniens perturbent le système endocrinien, donc la sécrétion d'hormones, et vont avoir un effet sur tout le métabolisme, notamment dans les exemples, les organes de reproduction. Donc ça pose aussi des questions sur les générations futures, et d'ailleurs, sur ce sujet, on s'intéresse beaucoup aux jeunes générations. On parle beaucoup des 1000 premiers jours. Donc c'est vrai que dans les populations les plus sensibles au sujet, on va retrouver notamment les jeunes parents, et comment essayer d'éviter l'exposition des enfants à ces perturbateurs endocriniens, donc les emballages alimentaires. Alors moi, il y a quelque chose qui, à chaque fois, je vais prendre un exemple qui m'effraie à chaque fois quand je vois, je sais pas si on peut citer les marques, mais les saucisses,
il faut en dire trois.
Les knackis.
Voilà. Les saucisses recomposées, on va dire.
Voilà. On met dans un emballage en plastique, dans un micro-ondes, pour les faire réchauffer, que l'emballage grandit, et en fait, dans ces emballages en plastique, on a des perturbateurs endocriniens différentes
qui ont les excitants se rediffusent encore plus facilement.
Et quand on chauffe, ça libère plus facilement le perturbateur endocrinien. C'est vendu plus spécifiquement pour les enfants quand même. Enfin, tout le monde peut en consommer, mais ça a quand même un aspect marketing plus enfant. Et je me dis, waouh. Alors ça, c'est des petits gestes simples, mais ça veut dire que pour avoir ces petits gestes simples, l'autre chose derrière, c'est de sensibiliser. Et donc la sensibilisation, elle passe par plein, par les institutionnels, par les associations. En interne, donc on a bien sûr une partie bureau d'études où on va accompagner plutôt les acteurs de la construction et les collectivités dans le choix des produits d'entretien, des choses comme ça.
Accompagnement des personnes, des crèches et des écoles notamment.
Oui, et puis les services d'entretien, savoir quels produits on choisit, comment est-ce qu'on peut limiter les perturbateurs endocriniens dans ces produits. Et puis il y a la promotion de la santé, et on a travaillé cette année, et notamment avec la ville de Lyon, on a fait une semaine où on a animé une escape game sur les perturbateurs endocriniens pour apprendre dans le public qui venait. On était plutôt sur des étudiants dans les secteurs de santé, des étudiants en médecine. Alors, les gens se sont tellement pris au jeu qu'ils ont oublié qu'on parlait des perturbateurs endocriniens. Mais ça fonctionne et donc on se fait une petite synthèse à la fin. Et je pense que la sensibilisation, elle est essentielle parce que on sait que le travail sur les produits et sur la composition de ces substances va prendre du temps. Parce que mine de rien, on parlait de fonctions magiques, il va bien falloir les remplacer ou en tout cas faire accepter aux gens que ces fonctions-là, elles puissent disparaître. Donc il faut les accompagner vraiment à comprendre ce que c'est et ensuite à faire les bons choix sur les produits.
Donc sortir un petit peu d'un schéma de facilité, de tout de suite ou d'immédiateté dans nos gestes de tous les jours et dans les outils et les objets qui les accompagnent, puis de se redire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que mon geste, finalement, est peut-être anodin à la base, mais il a beaucoup de conséquences? Je le dis, et ça va parler à Michel Lozana ici, quelqu'un qui fume pas une cigarette dans une pièce, il fait un bon geste pour 3 mois, puisqu'on retrouve les traces des polluants de la cigarette 3 mois plus tard. Donc deux minutes, pas de cigarette pendant deux minutes, on fait un bon geste pour 3 mois.
Pour rebondir sur ce qu'elle dit.
Ah mais complètement,
c'est
Michel.
C'est peut-être pas si difficile que ça. Moi, j'ai été maire et nous avons fait un travail avec mon directeur général pour simplifier le nombre de produits de ménage, voilà, qu'on utilisait. Et franchement, on y est arrivé pas mal et on a d'abord ça fait des économies parce qu'on achetait beaucoup de produits parfois pour rien et avec 2-3 produits on peut faire tout le ménage et avec des produits voilà bien spécifiques et je crois d'ailleurs qu'il y a un retour. Moi j'ai des enfants qui sont voilà un peu écolos, qui font très attention et ils font parfois même leurs propres produits ménagers en faisant très attention à ce qu'ils y mettent. Donc c'est pas si difficile que ça, non, ça demande un peu d'attention.
On y arrive, mais c'est exactement ça. Ça demande du temps et de l'accompagnement. Donc beaucoup de collectivités. Alors les grosses collectivités ont déjà des services qui réfléchissent à tout ça. Les plus petites collectivités qui n'ont pas de services techniques, mais qui ont quand même des établissements accueillant des enfants, on travaille par exemple avec l'Adréal pour essayer de les accompagner sur le choix de ces produits. De plus en plus, à ma grande surprise, et ça c'est très bien, on passe de plus en plus au nettoyage vapeur. Plus d'utilisation de produits d'entretien. Donc ça, ce sont quand même des bonnes choses. Et puis, plus globalement, on parle des perturbateurs endocriniens, mais la plupart des bonnes actions sur le choix des produits, elles vont avoir un impact sur l'ensemble des polluants. Et puis, dans la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui est bon pour la qualité de l'air habituellement, notamment le renouvellement d'air et l'aération, ça marche avec les perturbateurs endocriniens. Même s'ils sont présents,
évident.
Il faut aspirer pour les enlever et ouvrir les fenêtres.
Ouais, et puis il faut créer un taux de dilution suffisant pour éviter d'avoir des charges, qu'elles soient des charges de polluants, mais aussi, on retrouvait, Fabien parlait tout à l'heure de la Covid, on a les charges virales qui sont associées à tout ça, auxquelles il faut vraiment faire attention. Fabien, on va revenir vers toi. On a dit beaucoup de choses, mais j'ai plein de choses en tête. Notamment les bénéfices pour la santé sur ces réductions des polluants de l'air. Parce que là, il y a quand même des coûts qui sont associés au nombre de cas évitables, dans le petit tableau que tu as toi aussi sous les yeux.
On peut gagner,
mais un petit focus là-dessus.
On peut gagner, comme l'a calculé Santé Publique France, pas loin de 10 milliards d'euros pour ces bénéfices économiques et également des bénéfices sur la santé. On peut réduire de 75% le taux de maladies respiratoires si on respecte les valeurs de l'OMS dont nous parlions tout à l'heure. Alors effectivement, tu as dit un mot tout à l'heure, tu as parlé d'inégalité. Les personnes qui souffrent, y a une inégalité, il y en a que celles qui souffrent et celles qui ne souffrent pas. Alors une personne qui a une pathologie, qui est liée à l'environnement, elle va essayer de comprendre pourquoi elle a eu cette maladie et elle va essayer d'agir sur les différents composants. Donc là, on a quelqu'un, une personne qui a déjà les moyens, enfin, à qui on peut donner les moyens d'agir parce qu'elle-même en souffre directement. Donc c'est plus facile pour elle de se dire, eh ben, on va limiter les produits par rapport à tout ce qui a été dit, on va limiter les sources de pollution. Bon. Alors, cette personne, elle va déjà faire des choses elle-même, ce qui est à sa portée. Mais malheureusement, elle dépend des autres aussi, et des aspects collectifs. Et donc, la collectivité doit aussi prendre en charge cette protection de ces personnes qui souffrent. Et donc, dans le rapport de Santé Publique France, il y a plusieurs leviers d'action. Mais je voudrais prendre un exemple. On parle de la mobilité. C'est vrai que, si je prends l'exemple de Paris, on a agi sur la mobilité pour donner la place au vélo, donner un peu moins aux trottinettes maintenant, mais donner la place au vélo à ce qu'on appelle des mobilités douces, et on essaye de limiter la place de la voiture, etc. Et on a créé ces zones à faible émission, dans la mesure où on souhaitait, dans ces zones qui sont les plus denses, limiter la pollution. Et là, on a créé, de fait, d'autres inégalités. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à qui on interdit de rentrer dans certaines zones. Et donc, je trouve qu'on n'a pas suffisamment anticipé cet aspect-là, et que si on prend des mesures collectives, qui peuvent être draconiennes, contraignantes, il faut les accompagner. On ne peut pas dire du jour au lendemain à quelqu'un, on te supprime ça, parce qu'on doit réduire une source de pollution, c'est le bien de tout le monde, mais cette personne-là aussi, à qui on enlève des choses, il faut pouvoir l'aider, l'accompagner,
etc. Il y a du sens et de la pédagogie à donner derrière
voilà,
tout ça.
Voilà, exactement. Et donc, évidemment, on ne peut pas, du jour au lendemain, dire « je décide telle chose ». Il faut pouvoir accompagner les mesures. Donc, les personnes elles-mêmes qui en souffrent peuvent déjà agir. La collectivité peut agir. On peut faire plein de choses sur le plan collectif. On vient d'en donner des exemples, et il y en a plein d'autres. On peut faire beaucoup de choses pour protéger ces personnes qui souffrent.
Mais bien évidemment, et on va retrouver tout cela, on arrive, ça va assez vite l'émission, vous voyez Michel, un petit mot de la fin pour vous Michel, concernant notamment ce combat contre les puffs, et bien évidemment, je ne sais pas comment on prononce, puff je crois, mais il y a aussi le plan anti-tabac, hein, qui est 2023-2027, un petit mot sur celui-ci, puis ce sera le petit mot de la fin.
Rapidement, pour vous dire que malheureusement, nous avons eu en 2 ans 7 ministres de la Santé qui se sont succédés, que j'en ai interrogé plusieurs, et le dernier, je lui ai fait une lettre pour savoir où on a été, où on en était justement de ce plan anti-tabac, qui concerne certaines mesures, donc les écoles d'ailleurs, puisqu'il y avait une interdiction dans ce plan anti-tabac autour des écoles, une interdiction dans les parcs et à la plage. Voilà, pour les interdictions. Après, il y avait tout un plan aussi d'aide au sevrage tabagique. Ce qui est important, c'est bien de vouloir sanctionner, mais c'est mieux aussi d'accompagner en amont, quand même. Voilà, il y avait tout un discours là-dessus. Donc, ce qui est important, c'est ça, c'est aussi donc l'accompagnement, mais continuer nos efforts sur le tabac, dont on sait tous les effets délétères maintenant, et on lutte parfois un peu contre
les problèmes de santé de ceux qui les subissent, et surtout, il y a aussi le problème pécunier derrière, parce que ça coûte très très cher.
Ça coûte cher. Et alors, le problème en France, c'est qu'on n'est pas très outillé, entre guillemets, pour la prévention, parce que d'abord, on a des budgets qui sont annuels, et la prévention, c'est un temps long, on a du mal à prendre ça, bien qu'il y ait des études de plus en plus qui prennent en compte le côté économique, et c'est bien d'ailleurs dans cette étude qu'ils aient évalué, parce que ça fixe les choses. Donc ce sont des investissements, entre guillemets, à faire, mais qui profitent vraiment sur le long terme, et qui sont nécessaires en termes de santé publique, voilà.
On va revenir sur chacun d'entre vous, juste le petit mot, où on peut retrouver les éléments que vous nous avez présentés aujourd'hui. Fabien, c'est sur le site de Santé publique France.
Oui, exactement, on peut tout à fait trouver les 2 rapports, le rapport sur la santé, le rapport sur l'économie, une petite synthèse qui permet, donc c'est sur le site de Santé publique France, où il rapporte un petit peu tous ces résultats. Moi j'ai trouvé intéressant parce que on parle à la fois des aspects sanitaires, mais aussi ce qu'on peut éviter. Moi je trouve c'est très important pour des politiques d'apprendre aussi qu'on peut éviter des maladies, que ça fait gagner de l'argent, évidemment.
C'est que du bénéfice.
Exactement.
Finalement.
C'est que.
Sur tous les plans.
Qu'un bénéfice pour tout le monde.
Oui.
Et en particulier pour les enfants, parce que moi je suis très attentif aux enfants. Un enfant, c'est l'adulte qui le protège. Un enfant, il ne peut pas faire de lui-même ses actions. Donc, on est là aussi pour aider les personnes les plus fragiles, dont les enfants.
Si on n'a pas de la bienveillance, on ne va pas y arriver.
Oui.
Hein. Et on en parlait quand tu étais là pour présenter le CRQA, mon cher Fabien.
Exactement.
Cercle de réflexion sur la qualité de l'air. Claire-Sophie, on retrouve un petit peu des éléments par rapport à toutes ces prises en compte.
Santé publique France est une très bonne source sur les perturbateurs endocriniens. Sur le site de l'ANSES également, on trouve également des... Et puis si je peux faire parler de médicaux, en fait régulièrement, parce que c'est un sujet qui comporte beaucoup. On donne des petites indications une fois par mois sur LinkedIn. La dernière étant les perturbateurs endocriniens dans les câbles électriques chez soi.
J'ai vu passer.
Oui. C'est du caoutchouc.
Il y a des retardateurs de flamme.
Et en fait, ça chauffe et du coup, ça en libère. Et ils se retrouvent au sol. Et en fait, au sol, c'est les enfants particulièrement qui sont exposés.
Mm-hmm. Tony, on retrouve sur le site de Respire toute cette étude, plus celle que vous avez fait avant ?
Oui, exactement. Donc respire-du6asso.org. Et là, vous retrouvez le rapport avec l'analyse des tendances sur la région. Et puis, bien sûr, la carte avec tous les établissements, l'historique sur les 10 dernières années et la cotation gérée par établissement par rapport au niveau de pollution. Et je voulais juste préciser que même sur Santé publique France, vous avez aussi les chiffres par région. Ça, c'est intéressant parce que ça a été moins mis en avant. Et donc, typiquement, la région sud, vous retrouvez aussi ces données-là, mais aussi sur les autres régions.
Donc, on va bien aller regarder tout ça. Michel, on va retrouver ici de l'Assemblée nationale, peut-être, cette loi ?
Alors, ça y est, elle a été promulguée très rapidement. C'est une volonté des politiques et je suis très heureux que, à la fois, le président, le secrétariat général l'a promulguée très rapidement, je crois qu'il y a trois semaines au moins, au journal officiel.
Donc, on peut la trouver au journal officiel.
Journal Parfait. Officiel, ça a été promulgué. Quant au plan anti-tabac, je pense que c'est sur le site du ministère.
Voilà, ministère de la Santé.
De la ministère de la Santé, bien évidemment. Je pense que ça doit y être encore.
Et bon, on va regarder tout ça. Michel Lozana, Claire-Sophie Cudvez, Tony Renucci, Fabien Skinazzi, encore un grand merci à vous tous de nous avoir tous éclairés, faire prendre conscience bien mieux. Et puis, je le disais tout à l'heure, les beaux jours sont là. Faites quoi ? Allez dehors, allez vous balader, prenez un grand poumon et puis faites attention si vous êtes un petit peu allergique. Claire-Sophie, quelque chose ?
Dans un parc plus que dans un côté de l'autoroute.
On est, oui, c'est pas Tony qui dira.
J'avais envie de dire éviter le sport en plein air quand il y a des pics de pollution. Ouais, au
et surtout, ouais. Par rapport à l'étude dont a parlé Fabien tout à l'heure, il y a aussi ce qui ressort, c'est le bien-être des personnes. Tout autant que l'aspect sanitaire, tout autant que l'aspect santé, tout autant que l'aspect pécunier, le bien-être, ça n'a pas de prix non plus. On se sent tellement bien quand ça va bien. Alors, beau printemps à tout le monde et au plaisir de se retrouver, c'est élémentaire bien sûr.
Merci. Merci. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Immo et sur toutes les plateformes de streaming.